Aujourd'hui, nous allons surveiller justement en prenant le temps, les signes. Surveillons-nous les signes. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, mais quand même, nous sommes quelques 1900, quoi, 80 années après son passage sur la terre. Et ses disciples originaux voulaient savoir ce que nous aimerions savoir. Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, au sortir du temple, les disciples lui demandèrent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Un texte qui nous est familier parce qu'il est chez Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. On va prendre quelques extraits aujourd'hui. On va s'arrêter quelques minutes sur une dizaine de signes que Jésus nous donne et on va se poser intérieurement la question, est-ce que je suis vigilant et qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vis avec ce que je vois, ce que j'entends. Merci à Werner qui nous a invités, qui nous a en fait incités à ne pas toujours fermer l'oreille sur ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, nous vivons dans une ère fascinante où nous savons ce qui se passe presque à la minute près. Dans certains cas, difficile à gérer tout ça, mais cela fait partie de notre responsabilité. Nous pourrions imaginer ces prédicateurs évangéliques enthousiastes, espérant sauver des gens, debout au bord de la route, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « La fin est proche. Changez de direction maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Alors, il brandissait le panneau à toute voiture qui passait. Les gens ouvraient, ça c'est à l'ancienne méthode avec la manivelle, la fenêtre, mais aujourd'hui surtout avec le bouton électrique. Il disait à ce moment-là, laissez-nous tranquilles, fanatiques religieux. Et au virage, ils entendirent le crissement fort des pneus et une énorme éclaboussure dans l'eau. Et un des prédicateurs dit à l'autre, penses-tu qu'on devrait tout simplement mettre un panneau disant le pont s'est écroulé? Langage parfois religieux que nous avons, mais la réalité, elle, devrait nous parler aussi. Bien sûr, à force d'entendre les gens crier au loup, il est possible qu'on arrive à se moquer de ce petit garçon, n'est-ce pas, qui criait au loup souvent. Et on peut devenir méprisant. Moqueur. Prenons la première lettre aux Thessaloniciens, si vous voulez bien. C'est d'ailleurs une des premières lettres que l'apôtre a écrite et qui nous a été conservée. La première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et nous allons voir rapidement un peu comme en rafale les directives très édifiantes. Des versets 16 à 20, la première lettre aux Thessaloniciens 5, versets 16 à 20. La première, bien sûr, est assez difficile dans les circonstances. Soyez toujours joyeux. Bien sûr, il s'agit de cette joie que nous avons en sachant vraiment notre destinée, en sachant ce qui nous attend à la fin de nos jours. Priez sans cesse, faites des pauses. Rendez grâce en toute chose. Ayez ce cœur qui apprécie les petites choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Hein. On prie pour que la volonté de Dieu se fasse, que ta volonté soit faite. Bien, nous en savons une partie ici, être reconnaissant, avoir ce cœur qui dit à Dieu, je te remercie pour la neige. Je te remercie pour la pluie. Je te remercie pour l'épreuve, comme Jessica l'a chanté. Et ensuite, il ajoute, comme j'ai dit, comme en rafale, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Je pense que dans l'Église de Dieu, nous avons appris à aimer la parole de Dieu dans son aspect prophétie. Mais il peut y avoir un phénomène d'usure qui nous rend l'oreille un peu lourde. Bien sûr, le mot mépriser signifie ressentir du mépris ou avoir une profonde répugnance pour quelque chose dont nous nous moquons ou que l'on regarde de haut. Ce genre de mentalité est une condition, bien sûr, spirituelle dangereuse à avoir parce que elle nous rend l'oreille, comme je l'ai dit, lourde, méprisante, qui se ferme à certains mots, qui se ferme à certains énoncés. C'est équivalent, au fond, à rejeter Dieu parce qu'on rejette ses paroles. J'aimerais qu'on se reporte à un avertissement de la lettre de Jude, Juda, le demi-frère de Jésus, probablement son cadet, son plus jeune frère. Courte lettre, vers la fin, en fait, elle est placée juste avant le livre de l'Apocalypse. Intéressant d'ailleurs. Le demi-frère de Jésus est le dernier à parler, de moins dans cette classification, avant la grande révélation donnée par l'apôtre Jean. Et il nous dit ceci, versets 17 à 19. J'allais dire, Bruno, tu n'as pas donné le chapitre. Non, c'est vrai. Je pense qu'il est assez facile à savoir c'est lequel chapitre. Il n'y en a qu'un. Alors, versets 17 à 19. Mais vous, remarquez qu'il s'adresse à nous, merci, bien-aimés, souvenez-vous, gardez en mémoire, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Donc, la prophétie, ce sont des choses annoncées d'avance. Par qui? Par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, il semble donc qu'il l'écrit après que les apôtres ne sont plus présents. Est-ce qu'ils sont partis plus loin en mission? Est-ce qu'ils sont morts? Mais l'important, c'est le message qu'ils nous ont laissé. Ils nous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Voyez-vous, parce que parfois certaines paroles de Dieu ne correspondent pas à nos plans, à nos projets, à nos désirs, et s'ils sont illégitimes, à nos convoitises. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ils veulent avoir l'attention sur eux, ils n'ont pas la montrer ou la tourner vers la parole de Dieu. Hommes sensuels, on est tous créés avec cinq sens, mais ce n'est pas notre priorité. C'est un outil et non pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que n'ayant pas l'esprit, ils n'ont pas les priorités, ils n'ont pas la présence de Dieu qui les avertit d'être présents à lui. Alors, quelqu'un qui se moque de la prophétie, des choses dites d'avance, manque un élément majeur. Et nous avons aspiré, nous avons demandé, nous avons supplié Dieu qu'il nous donne cet ingrédient, l'Esprit Saint, comme guide de la vie. Et bien sûr, Paul a confirmé que pour être fils de Dieu, il faut être guidé par l'Esprit. On ne s'y reporte pas, mais c'est ce fameux passage qui dit, ceux qui sont guidés par l'Esprit ou habités de l'Esprit sont fils de Dieu dans Romains 8, dans la lettre aux Romains 8, 14. Prenez juste note, la lettre aux Romains 8, verset 14. J'aimerais par contre un proverbe, vous montrer un proverbe, chapitre 9, verset 8. Parce que bien sûr, nous, on a eu affaire parfois à des gens qui ont tourné notre utilisation de la parole de Dieu en dérision. Il y a des sceptiques, il y a des gens qui nous regardent parfois avec un certain air hautain. Alors, Proverbe 9:8 nous dit quand même, c'est à nous d'utiliser la sagesse, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Bon, c'est pas qu'on court après le fait qu'on veut se faire détester, donc on évite. Mais en même temps, il ne faut pas quand même craindre à l'excès de que les gens nous haïssent. Après tout, on est là pour aimer, nous, peu importe la réaction des gens. Ben, peu importe, faut en tenir compte pour vérifier si nous avons appliqué l'amour de Dieu de la bonne façon, mais quand même. Le moqueur est le genre de personne qu'on ne peut pas vraiment satisfaire. Par contre, reprends le sage et il t'aimera. Et ça, on l'applique à nous-mêmes. On se fait reprendre. La sermonnette m'a repris. Portez mon attention. Est-ce que j'arrête assez souvent? Vous savez, un moqueur ne va jamais vers la source appropriée pour chercher la connaissance juste. Il évite le genre de source qui le fait remettre en question ses valeurs, ses priorités. Il va plutôt vers les personnes les moins qualifiées pour fournir la réponse qu'il veut entendre. C'est ça la clé, c'est que est-ce que nous allons vers les personnes que nous voulons entendre ou nous allons vers Dieu pour qu'il nous montre les personnes que lui veut que nous entendons. Et c'est cela aussi d'ailleurs ce qu'il faut faire au niveau de ce qui se passe autour de nous. On y va avec les paroles de base de Jésus-Christ. Nous avons cette formation, on se souvient, n'est-ce pas, je pense à M. Goris, hein, comment on s'organisait pour, par exemple, le club d'orateurs, hein, de dire, bon, voici les événements que Jésus-Christ a annoncés, voici comment on va organiser notre classification de ce qui se passe dans le monde. Hein. On est encouragé à surveiller les événements, on l'est toujours d'ailleurs. Alors, 10 signes que Jésus a donné aux futurs apôtres. Et j'aimerais aujourd'hui brancher, si vous voulez, ou introduire un extrait de M. John Eliot récemment qu'il a écrit dans le Home Office Update, qui est en fait une lettre qu'il écrit à tous les employés de l'Église, et bien sûr qui doit être utilisé aussi pour l'ensemble de la famille de Dieu. Alors, si on prend Matthieu 24 et qu'on revise, j'espère, pour la part de nous, c'est une révision, nous savons dès le verset 4 et 5 que Jésus-Christ nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est le premier point qu'il nous donne concernant les signes. C'est que ce n'est pas juste une question d'observation, ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est une question de transformation dans le processus de surveillance. Un peu comme Un policier ou un garde de sécurité est entraîné à être constamment vigilant et observer ce qui se passe, alors que la plupart des gens sont occupés, eux, dans leur activité. Les personnes sont formées pour surveiller les choses. C'est un entraînement. L'enfant, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu sont formés pour aller au-delà de l'apparence et ont besoin de Dieu en sachant que même quand je vais observer, que je vais regarder, je pourrais même être trompé, être séduit. Alors ça, c'est le premier élément. Parce qu'il est dit qu'il y aura des signes qui seront très attirants, très attrayants, mais que ça pourrait en fait nous tromper. Vous savez, même certains chrétiens de ce monde seraient choqués d'apprendre que dans leurs propres églises, certains prédicateurs accomplissent cette prophétie-là. C'est que dans leur sincérité, ils peuvent, jusqu'à un certain point, tromper dans l'approche prophétique, mais aussi dans l'approche enseignement. Alors, il est important pour les saints de Dieu de bâtir, bien sûr, sur le roc la vérité. Premier élément, donc, attention que personne ne vous séduise. Deuxième élément qu'il va nous dire, c'est qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Bon, écoutez, je vais dire, mais ça, c'est depuis que les apôtres ont été envoyés en mission. La réponse est tout à fait juste. Et pourtant, nous sommes conscients que ces choses-là doivent attirer notre attention pour les bonnes raisons. Mais il ajoute bien sûr, ce ne sera pas encore la fin. Autrement dit, vous pouvez avoir un phénomène peut-être d'épuisement qui pourrait s'installer à force de voir des conflits. Surveillez ce qui se passe en Ukraine, surveillez ce qui se passe bien sûr au Nigeria, où on l'a vu tantôt au Congo. Tout ça, ça peut être épuisant, ça peut être demandant. Alors bien sûr, ce signe de conflit est indéniable. Les nations se battent, la tension monte, les gros titres sont submergés par chaque escarmouche. Et nous pourrions voir le phénomène d'usure de dire, ah, oh, moi je suis dépassé, je ne sais plus quoi faire. Il y a une directive, frères et sœurs, qui s'applique pour nous les chrétiens. C'est nous devons, et vous le savez, nous devons prier pour les dirigeants de nos nations. Oh là là, ça, c'est pas toujours facile. D'abord, on n'a peut-être pas toujours de l'empathie pour eux. On a hâte que Dieu le change, mais tant qu'il est en fonction, nous devons prier pour que Dieu donne à ces hommes des soupçons de sagesse qui empêche la pire des folies, c'est-à-dire la guerre, par exemple. Un autre élément, un troisième signe, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Hein, c'est au verset 7 et 8. Et ça, c'est intéressant parce que on peut regarder ça d'une façon comme objective, externe. Jusqu'à temps qu'on vit un tremblement de terre, là, c'est vraiment la terre qui se dérobe sous nos pieds, du moins jusqu'à un certain point. Mais en fait, la terre, c'est notre habitacle, hein? La terre, c'est là où nous avons été placés. Et si la terre tremble, et si la sécheresse frappe, la question, on devrait dire, qu'est-ce qui se passe? La question devrait dire, qu'est-ce qui arrive? Où est la faute? Et ne pas regarder, bien sûr, nécessairement en disant, il y a certainement la faute chez mon dirigeant sur telle chose. Non, mais où est la faute humaine? C'est un avertissement, c'est un son de trompette. Nous assistons à d'énormes pénuries alimentaires, à des tremblements de terre destructeurs, d'autres calamités naturelles dévastatrices. C'est comme si la Terre, avec ses séismes et ses volcans, gémissait. Hein, vous connaissez cette phrase de l'apôtre Paul, hein, qui dit: La terre gémit dans l'attente, pousse des soupirs dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Il y a cette souffrance planétaire qui attend la manifestation, le rayonnement, la venue des enfants de Dieu dans la gloire avec, bien sûr, leur Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont donc des signes qui devraient nous ébranler. Dans le sens ébranler, dans le sens de le sentir. Puis au verset 9, il est dit que là, il y aura une tribulation, il y aura une persécution extrême des saints. Ce sera un temps de trahison et de parution devant les tribunaux d'État. Il y a eu ça à travers, bien sûr, aussi certaines époques. Il y a un prix à payer pour être un véritable disciple de notre Seigneur. Nous le savons et nous devons nous rappeler que les signes qui se passent au Nigeria, par exemple, où on tue les gens simplement parce qu'ils se disent chrétiens, parce qu'ils veulent honorer Jésus le Christ, c'est nous dire, c'est là, c'est déjà là. C'est un terrible avant-goût, bien sûr, de ce qui arrivera sous la gouverne d'un dirigeant mondial, mondialisateur, occidental, bien sûr, appelé la bête. J'aimerais qu'on branche ici, frères et sœurs, dans ce signe de persécution. Un passage qu'on va aussi vous poser un petit peu comme intercalé avec Matthieu 24, c'est le Daniel 11. Daniel 11 est le passage parallèle parce que Jésus-Christ va faire référence à cet homme qui s'appelait à l'époque où il a vécu, il s'appelait Antioche Épiphane, il est rentré dans les livres d'histoire. C'est lui d'ailleurs qui, ce dirigeant de l'Empire grec, un des successeurs, si vous voulez, d'Alexandre le Grand, lui était probablement Antioche le Petit, hein, si je veux dire, petit d'esprit. Daniel 11:30 nous parle que ce leader historique, qui est une figure qui se répétera dans l'histoire des temps de la fin, que ce gouverneur était furieux contre l'Alliance Sainte. Alors je lis Daniel 11:30, il ne restera pas inactif à son retour, donc dans ses déplacements, il portera ses regards sur ceux qui ont abandonné l'Alliance Sainte parce que il est content qu'il y a des gens qui ont abandonné l'Alliance Sainte. Qu'est-ce que l'Alliance Sainte? C'est l'alliance de l'engagement entre Dieu et son peuple, entre l'Éternel et les Israélites, et éventuellement, bien sûr, la nouvelle alliance entre, si vous voulez, Jésus-Christ et son Église. Des troupes se présenteront, au verset 31, sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Et là, on a un élément qui s'est passé déjà. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire à Jérusalem, dans le temple, il y avait ce sacrifice du matin et du soir. Et lui voulait avoir contrôle sur ce qui se passait à l'époque. Il voulait contrôler ce peuple incontrôlable. Et il dit que les troupes vont dresser l'abomination du dévastateur, que ce leader, verset 32, séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Donc, il semble que ce leader a, historiquement, il a fait alliance avec certains du peuple juif qui étaient revenus de captivité. Éventuellement, il les a amenés à des magouilles politiques, si vous permettez. On va continuer un petit peu avec lui, mais j'aimerais maintenant justement montrer que Jésus-Christ va parler qu'un des éléments à surveiller, ce sont les faux enseignants, les faux prophètes, que à cause d'une anarchie, la méchanceté va abonder. Et que nous devons, nous, les chrétiens, ne pas se laisser tromper, non seulement cela, mais continuer à briller. Alors, c'est dans ce sens-là que Daniel 11 va continuer à expliquer comment historiquement ça s'est produit et comme il y a des éléments pour lesquels nous portons attention. C'est à la fin du verset, donc 32. Jusqu'au verset 35, Daniel 11, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ce sont le contraire de ceux qui trahissent l'alliance, de ceux qui dédaignent ce que Dieu leur a demandé de participer dans l'alliance, mais ceux qui prennent à cœur l'alliance, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent avec fermeté, avec conviction. Ils comprennent les enjeux. Verset 33, les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y a toujours cette responsabilité que quand on a la vérité, quand on comprend le plan de Dieu, il faut instruire les autres. Il en est qui, par contre, succomberont pour un temps à l'épée. Donc, ça sera un moment où il y aura même des martyrs. Il y aura des gens qui vont être tués pour leur conviction. À l'épée, à la flamme, à la captivité au pillage. Et on explique ici, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, expliquant ce climat à la fois de gens convaincus, mais de gens aussi qui se joignent à eux. Est-ce que c'est pour éventuellement épier ce qu'ils font ou simplement pour profiter des promesses qu'ils transmettent de la part de Dieu? Enfin, c'est par hypocrisie. Verset 35, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis. Donc, c'est une question de progrès dans la vérité, c'est une question de fermeté, c'est une question aussi de purification du cœur, des intentions et des motivations. Jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ce processus, donc, s'est répété dans l'histoire. Des moments de vérité, si on peut dire, où des hommes fermes se positionnent contre des injustices flagrantes. Et là, ce point-là des faux enseignants, on va ajouter un autre signe. Donc, le cinquième point, c'était des faux enseignants surgiraient. Donc, il faut surveiller ça. Le sixième, c'est un peu une conséquence, mais c'est aussi un phénomène global. L'amour de plusieurs, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que c'est pas le phénomène aujourd'hui où la compassion, l'unité s'efface, où chacun, bien sûr, est encouragé à développer ses propres ambitions, de développer son propre système philosophique où tout est relatif. Ce phénomène-là qui fait que les gens n'ont plus la certitude que Dieu existe et que Dieu nous dit d'aimer notre prochain, alors c'est au plus fort la poche, comme on dit, Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à ne pas nous refroidir, nous dit au contraire d'aimer nos voisins, notre famille, même ceux qui s'opposent à nous. Si vous voulez avoir une description un peu de notre société aujourd'hui, vous pourrez prendre note d'un passage ici dans la deuxième lettre à Timothée, un passage bien connu. C'est la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 1 à 3, qui nous, on pourrait donner comme titre en haut, c'est Temps périlleux et personne dangereuse, parce que ça va ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles, c'est intéressant parce qu'il va dire, c'est les hommes qui amènent les temps difficiles. Car les hommes, les êtres humains seront égoïstes. Les temps difficiles sont dans l'endurcissement des hommes, des êtres humains. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Alors ça, est-ce que ça décrit le monde en général, les médias? Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et on entend ces choses-là à la radio, n'est-ce pas? Des enfants qui tuent leurs parents parce que, ils ont pas voulu lui donner de l'argent pour acheter sa drogue à cause de vraiment son manque chimique. Ça fait partie de l'amour qui se refroidit. Un aspect positif au milieu de ces 10 signes, et c'est intéressant parce que c'est le septième signe, c'est le verset 14. Hein? Cette bonne nouvelle, malgré tout ça, il y a pour nous l'élément que c'est une bonne nouvelle. Mais laquelle? Cette bonne nouvelle du royaume, de la royauté de Dieu, c'est-à-dire de la souveraineté de Dieu, sera prêchée dans le monde entier. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vient là avec tous les signes. Est-ce que nous surveillons ce signe-là? Est-ce que nous sommes intéressés à ce qui se passe dans le monde avec l'Église, avec l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous surveillons, nous lisons encore les rapports que l'Église de Dieu unie va publier sur ce que nous faisons en France, ce que nous faisons en Allemagne, sur ce qui se passe? Bien sûr, vous allez dire, on a tellement fait plus avant, le corps peut-être collectif a fait plus, mais est-ce que c'est plutôt la question, qu'est-ce que je fais, moi, pour suivre, pour garder cet intérêt de cette bonne nouvelle, vouloir qu'elle soit annoncée? Elle sera annoncée dans le monde ou prêchée dans le monde entier pour servir de quoi? On utilise avec raison, mais pas complètement exactement. On se disait, cette bonne nouvelle sera prêchée comme avertissement. Oui, quand on aime quelqu'un, on l'avertit. Ça, c'est tout à fait exact. Mais regardez que le mot, c'est comme témoignage. Témoignage, c'est-à-dire avec l'annonce vient la présentation du témoin, c'est-à-dire la personne qui est impliquée dans cette bonne nouvelle parce qu'elle la porte, elle croit, elle en vit, elle est une représentation, elle est un ambassadeur de cette bonne nouvelle. Est-ce que je suis un ambassadeur crédible, porteur de cette bonne nouvelle, où les gens disent, si c'est ça, être un chrétien, on va attendre un peu de voir plus de fruits. Okay? Alors, c'est pour ça que cette bonne nouvelle, c'est en tant que témoignage, pas juste comme un avertissement qu'on dit, ben là, attention, là, Jésus-Christ s'en vient, est-ce que vous êtes prêts comme moi, je suis prêt? Ça, c'est un avertissement. Mais attention, Jésus-Christ s'en vient. Et voici quel doit être le comportement, comment nous devons nous préparer à l'accueillir, comment nous devons déjà pratiquer la loi du royaume, hein, cette loi de liberté, comment nous devons gérer la liberté que nous avons. Alors, c'est quand même bien qu'on a au niveau des signes cet élément-là, que nous-mêmes, on doit être un signe. Vous savez, à cette ère, à l'ère de l'informatique et des téléphones portables, il est possible d'atteindre presque tous les coins du globe. C'est intéressant de voir ce. Je voyais ça il y a quelques années. C'était un Arabe sur un chameau, quelque part au Sahara, qui avait son téléphone cellulaire. Alors, il pouvait entendre une émission du Monde à venir, espérons traduite en arabe, mais il aurait pu l'entendre sur son chameau. Il est important donc que chacun de nous, du peuple de Dieu, soit activement impliqué dans la promulgation de l'Évangile. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, au verset, Matthieu 24, 15 va nous donner quand même l'élément que Daniel a déjà donné historiquement. Donc, il y a eu ces troupes qui sont rentrées, il y a eu l'installation de l'abomination de la désolation dans le temple, qui est une statue en plein milieu du temple. Et c'est abominable parce que, bien sûr, c'est dans le temple de Dieu. Dieu dit, tu ne feras pas de statue. Mais il y avait une consolation là-dedans. C'est que c'était des païens qui l'avaient installé. Alors qu'il y a eu une partie dans l'histoire où il y a eu même des sacrificateurs de Dieu qui ont placé une abomination de désolation dans le temple. Vous lirez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir. Mais ici, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, une question de bien comprendre la prophétie, de l'étudier. Vous savez, l'histoire se répète. Et un des buts de Dieu de mettre par écrit certains événements historiques. Vous savez, Dieu a une certaine liberté, c'est de choisir dans toute l'histoire humaine les éléments qui vont nous aider à comprendre son plan, son but, les obstacles à son but, les obstacles à franchir. Alors, c'est un de ces événements-là a été gardé historiquement, donc cet Antioche Épiphane qui désacralise le temple de Dieu pour pouvoir tirer des leçons et comprendre que pour Dieu, les êtres humains sont prévisibles. Pour nous, c'est imprévisible si on ne connaît pas l'histoire, si on ne s'intéresse pas, on va être pris de court. Mais pour Dieu, c'est très prévisible, surtout que il va permettre, il va, dans le sens, canaliser les événements pour qu'elles soient compréhensibles, pour qu'ils soient compréhensibles. Dans un texte parallèle, il y a un signe additionnel, M. Elliott en a parlé il y a quelque temps, c'était lorsque vous verrez Jérusalem entourée par des armées. Ça, c'était quelque chose, j'espère que vous avez bien entendu ce message, parce que M. Elliott expliquait que nous avons un avantage sur la plupart des chaînes de médias, c'est que certaines informations, Dieu les a réservées pour nous, et le peuple de Dieu, au temps des années 65, 66 jusqu'à 70, savait que les armées, lorsque les armées entouraient Jérusalem, que ça serait le temps de sortir et ne pas revenir. Ne revenez pas en arrière. Alors, les armées sont venues, romaines, elles ont encerclé, mais pour une raison ou pour une autre, à cause de certaines difficultés à Rome, à régler, elles se sont retirées. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, eux, ont dit, on a eu notre signe, on part d'ici. Alors que la plupart de leurs concitoyens sont revenus, et même c'est au temps de la Pâque que les armées romaines sont revenues et ont encerclé la ville, et cette fois-ci, ce fut sans pitié. C'est un signe. Un dernier signe pour aujourd'hui, avant que je parle un peu en détail des éléments récents, c'est dans Matthieu 24, toujours au verset 32 à 34, il dit ceci: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Pour Dieu, autrement dit, les événements, c'est aussi prévisible que les signes qu'il a mis dans la nature concernant les saisons. Verset 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Donc, c'est la combinaison de tous les signes, toutes ces choses. À la porte, il n'en manquera pas. Je vous le dis en vérité, cette génération qui verra toutes ces choses ne passera point que tout cela n'arrive. Ici, cet élément que j'aimerais préciser, c'est dans le dernier, l'avant-dernier, je te dirais, Home Office Update, c'est daté du 24 décembre. Monsieur Elliott écrit ceci, le président de l'Église de Dieu, il dit: Une montée soudaine de la puissance militaire allemande, ainsi qu'un changement majeur des puissances sociales est en cours. Ce tournant dans l'histoire mondiale est corrélé à une renaissance finale prophétisée de l'Empire romain, ou l'équivalent. La position de longue date de l'Église est que les bêtes décrites dans Apocalypse 13 s'élèveront de la région européenne dans une alliance Église-État, ou, si vous voulez, civile et philosophique ou philosophico-religieuse. La première bête régnera en tant que puissance militaire mondiale exerçant une autorité satanique sur un large spectre de la société mondiale. Une seconde bête religieuse, apparemment chrétienne, du moins elle fera des prodiges. Et en passant, frères et sœurs, pourquoi on ne peut pas savoir, c'est que tant que les prodiges ne se font pas, et que le monde n'est pas dans l'étonnement et qu'on ne peut pas complètement être même éberlué par cette bête religieuse, on ne peut pas la reconnaître, même si on peut savoir à peu près d'où elle vient. Il faut comprendre qu'il y aura un phénomène d'étonnement mondial, incluant l'Église. L'ascension d'une superpuissance régionale européenne a longtemps été anticipée par l'Église de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que dans un certain sens, ça fait plus de 80 ans qu'on prêche ce message-là. Avec plus ou moins, bien sûr, d'intensité, plus ou moins, on pourrait dire, cette capacité de le faire avec intensité ou avec conviction, je pourrais dire. L'histoire associée à certains passages des Écritures hébraïques désigne le peuple allemand comme les descendants les plus probables des anciens Assyriens. Donc, ces recherches-là existent dans les livres d'histoire. Il faut comprendre, frères et sœurs, que par exemple, nous dit M. Eliot, Ésaïe 10, versets 5 et 6, décrit en type à la fois la captivité historique assyrienne d'Israël, ainsi qu'un exemple futur prophétisé, et que l'Assyrie est utilisée ou est appelée par Dieu comme la verge de sa colère. Donc, c'est un instrument pour punir les nations décadentes, des civilisés, de ceux qui se disent chrétiens, qui se disent les meilleurs, qui se disent bénis, mais qui, bien sûr, sont décadentes, dans le sens qu'elles ont oublié la source de leur bénédiction, afin de punir, comme ça a été le cas historiquement, ces nations-là. et elle jouera cette bête, ou plutôt cette armée assyrienne, à nouveau un rôle similaire dans la prophétie des temps de la fin. Alors, c'est intéressant, M. Gott va expliquer un petit peu comment, à travers les temps, l'Église de Dieu, avec M. Armstrong, même avant la Deuxième Guerre mondiale, imaginez, avait dit, l'Allemagne va se relever. Lorsque les troupes allemandes ont encerclé l'armée française, ils ont dit, c'est là ce qui se doit se passer selon la prophétie. Les éléments d'avertissement étaient là. Certains éléments de témoignage étaient là. Mais bien sûr, il y avait le temps de Dieu. Le temps de Dieu, la progression de Dieu, Dieu seul peut nous la révéler. Et souvent, c'est comme la plupart du temps, les prophéties sont pour nous préparer à reconnaître les événements que Dieu a amenés lorsqu'ils s'accomplissent. Seulement quand ils s'accomplissent que l'on dit, ah, Dieu me l'avait dit. C'est ce qui s'est passé avec la première venue de Christ. Certains connaissaient la prophétie, la plupart n'ont pas quand même compris jusqu'à temps qu'ils voient de leurs propres yeux, et certains étaient prêts lorsque Jésus-Christ leur a expliqué les Écritures. Alors, je continue à citer M. Eliot. Aujourd'hui, il écrit, et je dis aujourd'hui, 10 janvier, on est en 2026, on est 4 jours après le décès de M. Armstrong il y a 40 ans. Un cycle de 40 ans s'est passé. Presque 2 ans depuis la mort d'un de ceux qui est en charge du département pour surveiller les événements mondiaux. Et on a eu des éléments à travers le temps, ceux qui étaient là, n'est-ce pas, vous vous souvenez, qu'on surveillait M. Strauss, qui pouvait être un successeur et tout ça. On faisait notre part de travail en essayant de suivre les événements. Mais récemment, ce sont nos frères en Allemagne et en Autriche qui ont montré qu'ils sont pleinement conscients de ce qui se passe. Qu'est-ce qui est sous le couvert de l'actualité? Par exemple, en février 2022, l'Allemagne a connu ce que le chancelier Olaf Scholz a appelé, permettez mon allemand, Zeitenwende, un tournant par la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Leurs dépenses militaires cette année-là, les dépenses ont grimpé à 71 milliards de dollars. Et ont entamé une transformation majeure. Ça s'est fait. Ça s'est presque pas dit, hein? C'est une belle discrétion, là. Et le projet, l'an dernier, les seules puissances nucléaires à avoir dépensé plus en armement que l'Allemagne étaient les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc l'Allemagne, quatrième à pouvoir dépensés au monde. Mais d'ici 2029, les dépenses de défense de l'Allemagne auront dépassé 500 milliards d'euros pour son réarmement. Le mois dernier, le chancelier, donc on est en décembre, le chancelier Friedrich Merz a déclaré clairement l'Allemagne aura l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Ce changement, vous le savez, s'est accéléré après que le président Trump a averti l'OTAN, c'est-à-dire l'Organisation de défense de l'Europe, que la protection américaine ne pouvait plus être garantie, poussant l'Europe à gérer elle-même sa défense. Il y a des raisons là-dessus, il y a des raisons économiques, il y a des raisons idéologiques, il y a des raisons de ceux qui mordent la main de ceux qui ont apporté la part de gâteau. Il y a des raisons humaines, il y a des raisons spirituelles aussi. Est-ce que nous sommes vigilants? Il y a déjà, vous avez entendu, j'ai entendu un grand majeur, un grand chef militaire français qui a dit, préparons nos enfants à sacrifier leur vie pour la défense en Ukraine. Il faut l'entendre pour le croire. Langage que certainement nos plus anciens dans l'Église reconnaissent. On a M. et Mme Audouin qui étaient là lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est déclarée, qui ont vécu ça. Ils reconnaissent le langage. Alors, ces éléments-là sont à surveiller, bien sûr. Avec le soutien allemand, par exemple, à la Lituanie, à la frontière nord de la Baltique, avec la Russie, avec l'Ukraine, à la frontière sud de la Baltique, la Pologne, avec sa géographie, ses effectifs au centre, un tampon, n'est-ce pas, pour l'avancement russe se forme. C'est assez intéressant parce que nous savons que dans la toute fin, alors que la puissance militaire sera manifestée en Europe, ce sont justement des nouvelles du Nord et de l'Est qui viendront effrayer le roi du Nord. Donc, c'est intéressant de voir que le roi du Nord, bien sûr, qui est l'Europe, parce qu'elle est au nord de Jérusalem, entendra des nouvelles venant de l'Est et du Nord, qui est donc plus à l'Est. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on trouve là? C'est cette fameuse, non seulement ancienne, Union socialiste et soviétique, qui est la Russie, mais il y a aussi, bien sûr, la Chine qui est à l'Est. Il y a aussi, hein, M. Chabie en parlait, il y a aussi les Indes avec son 1,4 milliard d'habitants qui regardent du côté plutôt de l'Est que maintenant du côté de l'Ouest. Alors, vous voyez des mouvements, hein, frères et sœurs, que nous aussi, on doit toujours être là, surveiller, juste pour arriver à la fin, du moins, de ce que M. Elliott écrit. Il dit, l'Allemagne est quand même la troisième plus grande économie du monde et bien sûr la plus grande d'Europe. Donc tout le monde en Europe s'attend à ce que nous soyons l'allié le plus fort de l'OTAN en Europe. Et ça, bien sûr, c'est le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui a répondu ceci. Et ils veulent être prêts pour 2029. C'est une date pour eux. J'aimerais qu'on conclue avec l'élément que Jésus a dit quand même une phrase dans son sermon sur le mont des Oliviers. Il a dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Parce que bien sûr, si on prend les choses au sérieux, on sait que Dieu tient parole, on sait que Dieu est patient. Mais on sait que Dieu aussi a un temps limite, une date d'expiration, si vous voulez, sur sa patience. Gardez-vous d'être troublés. Notre tâche, donc, est de continuer à vivre la voie de Dieu jusqu'à ce que nous soyons, bien sûr, transformés de mortels à immortels. Et nous ne devons pas être détournés de ce chemin par des humeurs, une lassitude ou par un mépris de ce que Dieu veut faire dans ce monde. Une espèce de phénomène d'usure. Oui, mais on l'a entendu celle-là. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyons pas trop anxieux. Ne nous inquiétons pas outre mesure de la tribulation, de la grande détresse. Pourquoi? Parce que Jessica a chanté juste avant, dans la détresse, tu es avec moi. Après que Dieu a confirmé qu'il fallait s'arrêter pour prendre une pause, pour regarder, pour observer, pour laisser Dieu nous parler et nous parler à Dieu, Ne nous inquiétons pas parce que même dans la détresse, nous a chanté Jessica. Et nous dit la Bible. La prophétie est destinée à montrer la volonté de Dieu. C'est un appel à se tourner vers lui. La prophétie motive à voir l'urgence des temps afin que les sages apportent les changements nécessaires dans leur vie. Les sages. Les événements du monde nous montrent que la fin de l'ère n'est pas loin. J'aimerais qu'on conclue avec Romains, la lettre aux Romains, chapitre 13. La lettre aux Romains, chapitre 13. Les événements du monde nous montrent que la fin de l'ère n'est pas loin. Chaque année qui passe nous en rapproche. Ça pourrait être dit comme étant, oui, je l'ai déjà entendu, mais c'est aussi une vérité de la palisse. Et malgré que c'est la palisse, on appelle une la palissade, c'est-à-dire c'est trop évident, ben c'est quand même la vérité. L'apôtre Paul écrit ce que nous devons comprendre maintenant. Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Intéressant le langage ici. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ça, c'est l'apôtre qui parle à ses frères et sœurs. Car maintenant, le salut est plus près de nous collectivement, que lorsque nous avons cru. C'est aussi une autre vérité de la palisse. Elle est biblique en plus. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, parce que c'est incompatible, et revêtons les armes de la lumière.